Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute. Il va falloir qu'on se dépatouille avec cette question de bande-annonce.
Ah, moi, hein. J'ai trouvé ma réponse.
T'as trouvé ta réponse ?
C'est quoi au final, du coup ?
Bah voilà, c'est ça.
Le jeu de votre enfance.
Ah oui, oula.
Ouais, parce qu'en fait, on était en galère. Vrai. Alors, je veux m'excuser parce qu'il y a pas mal de gens, il y a un sujet, il y a un fil de discussion qui s'appelle suggestion de questions pour la bande-annonce. Il y a toujours des gens qui mettent des questions et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, spécialement, depuis quelques semaines, j'avoue, hein, c'est pas tout à fait récent, je me mets à balancer les questions à mes chers amis ici présents, genre 10 minutes avant le début de l'enregistrement. Donc, il y a beaucoup de très bonnes questions qui sont en stock, mais qui nécessitent une réflexion, qu'il faudrait que je donne 2-3 jours avant. Et donc là, c'est vrai que j'étais un peu décontenancé parce que j'avais pas cette question un peu immédiate. Il fallait toujours un peu de phase de réflexion. Je vais refaire un planning de questions, en fait. C'est ça qu'il faut. Vous êtes d'accord, hein ? Il faut un planning de questions.
Oui. Ouais, voilà. Tu veux, moi, je...
Ou alors...
J'ai chance qu'on le consulte au dernier moment quand même. Hein.
Ou alors, est-ce qu'on pourrait pas faire des remakes de questions de bande-annonce ?
Ouais.
Hein, c'est la mode.
Notre avis a pu évoluer, tu vois, c'est pas impossible.
Puis c'est la mode, les remakes. De toute façon, on fait que ça, des remakes.
Alors, en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans l'émission de demain, il n'y a pas trop de remakes. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, je pense.
Oui, bien sûr.
Je te laisse te démerder avec ton blanc. Hein.
Je me démerder. Bon, la question, vous l'avez entendu, la question de la bande-annonce de cette semaine, c'est quel est le jeu vidéo de votre enfance ? Vous étiez petit, vous étiez encore innocent et tout ça. Et
alors
c'est
moi,
quoi,
j'ai jamais
vidéo...
été petit.
Et jamais
grand
innocent.
Direct.
Et c'est quoi si vous ne gardiez qu'un seul jeu vidéo de votre enfance ? C'est quoi le jeu vidéo de votre enfance, Patrick ?
Ah, c'est difficile comme question.
Ah bah oui,
mais tu choisis arbitrairement, on te demande pas un truc définitif.
Alors, enfance, c'est l'Amstrad, c'est mon premier micro, donc c'est là-dessus que j'ai eu mes premiers jeux. En garder un, c'est très difficile. Il y en a plein, Commando, Ikari Warriors. Bon, allez, je dirais Bomb Jack. Peut-être Bomb Jack. Vous savez, ce petit super-héros là qui volait, machin, etc. Il fallait récupérer des bombes en train de s'allumer qui allaient exploser. Ouais, c'est un jeu qui était très coloré, que j'aimais beaucoup, qui avait une rejouabilité assez folle, qui était une adaptation, évidemment, qui est sortie sur plein de machines, mais auquel je revenais tout le temps, en fait, et qui était vraiment un énorme classique pour moi de mes premières années sur Amstrad. Bomb Jack, mais voilà, Commando, Ikari Warriors, Boulder Dash aussi, j'ai eu une grosse addiction à Boulder Dash.
Boulder Dash, carrément.
Parce que j'adorais, je crois que j'en ai déjà parlé, la mécanique Boulder Dash, elle est ultra addictive en fait, sur ce côté d'appréhension de l'environnement.
Mais surtout dans Boulder Dash, on faisait, alors je sais pas vous, mais moi j'ai des très bons souvenirs des 3 ou 4 premiers niveaux. Après, il devient carrément tellement
trop dur, compliqué.
Les trois premiers niveaux, je les ai refaits.
Cause et conséquence, tu creuses le sol et hop, t'as la pierre qui tombe. Il y a vraiment quelque chose d'apprendre dans un jeu vidéo ce que tes actions vont avoir comme conséquence sur la suite. Donc ouais, il fait partie aussi de mes grands classiques de l'époque.
Boulder Dash, c'est vrai. Boulder Corentin Dash.
J'ai un peu réfléchi. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt été gâté en jeu vidéo dans ma jeunesse, donc ça, il a fallu faire un peu un tri aussi. Mais je pense quand même que le jeu qui aura pris la plus grosse importance, parce qu'il a créé, on va dire, beaucoup de liens sociaux entre moi, mes amis et les gens dans la cour de récré ou ce genre de choses, c'était Pokémon, quoi. C'était Pokémon bleu, rouge et or et argent. Parce que c'était un, Il y a eu un changement, quoi. Il y a eu un avant et après dans ma vie de joueur, je pense. C'est-à-dire qu'il y a le, il y avait le moment où le jeu vidéo était à la maison et avec les amis qui venaient à la maison. Et puis d'un seul coup, avec Pokémon, quand il est arrivé, c'est devenu quelque chose de dans le décor, à l'extérieur, à l'école notamment.
Ouais.
Et je me souviendrai beaucoup notamment de l'anticipation de l'arrivée de Pokémon. On mine de rien. On avait des informations et on découpait les images dans les magazines, ce genre de choses. On était un petit peu quand même au courant que quelque chose arrivait. Il y avait des pubs aussi dans les magazines pour enfants où je me souviendrai toujours de cette pub où quelqu'un la retrouvera bien dans le Discord. Où
98, il y a 99, non, à peu près
98 en France, je crois. Ouais. Ouais, je crois 96 au Japon, 98.
99, moi, j'aurais dit. Ah, il faudra vérifier.
Non, 98 en France, il me semble bien. Si je me trompe, de toute façon, je me ferai étrier par le
Discord. Ah oui, je me rappelle les pubs, il y avait beaucoup de pubs à l'époque. Ouais,
et alors dans les... Dans genre, je sais pas, Kidsmania, ce que je lisais à l'époque, il y avait cette pub avec cette personne qui avait un imperméable et qui ouvrait comme s'il te filait de la drogue, mais en fait c'était il y avait un Pokémon dans chaque poche et quel va être mon Pokémon, je choisissais dans quelle poche et tout ça. Donc il y avait une anticipation et quand le jeu est sorti et beaucoup de gens en fait en même temps, c'était évidemment un carton phénoménal, beaucoup de gens ont eu le jeu en même temps et donc c'est devenu une part importante ensuite de mon temps libre, entraîner mes Pokémon, les collectionner, obtenir les 150, échanger et donc c'est au-delà du jeu en lui-même, il y avait le para-jeu qui est devenu complètement hors de contrôle. Rajoute à ça tout le transmédia, donc le média mix, donc l'aspect dessin animé, figurines, jouets, cartes à collectionner. Et donc Pokémon a pris une énorme part. Pokémon donc bleu et rouge et puis or et argent, qui est un de mes jeux favoris de tous les temps, qui est un des meilleurs Pokémon par ailleurs, dans le statu quo, dans l'avis général sur les Pokémon, parce que bon, dans or et argent, il y a deux jeux quasiment, donc c'est vraiment incroyable. Pokémon rouge et bleu, or et argent.
J'ai un souvenir qui vient de me revenir, c'est mon premier contact avec Pokémon. Je me rappelle, j'étais à mon deuxième taf, j'étais encore ingénieur en informatique, c'était dans une SS2I, société de service, et mon premier contact avec Pokémon, moi je jouais en PC beaucoup, à cette époque-là je jouais beaucoup en PC, et c'était une collègue Quadra, qui était là depuis longtemps dans la boîte, et que je vois jouer avec sa Game Boy, et c'était pas du tout quelqu'un que j'imaginais jouer le modèle classique, stéréotypé de joueuse, de joueur. Et en fait, elle avait sa Game Boy, elle m'avait montré Pokémon, ce que c'était. J'étais là, wow, c'est très très chelou. Mais voilà, non, c'est marrant, ça me revient dans cette époque-là.
Ouais, en fait, il y a vraiment cet aspect social qui part du jeu comme ça. Et qui, l'échange et les combats, honnêtement, pour moi, la Game Boy, c'était un plaisir très solitaire avant. Et d'un seul coup, ça devient une espèce de sujet, quoi. Pokémon devient un sujet. Et je pense que... je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte aussi dans leur jeunesse que le jeu vidéo pouvait être quelque chose de très très qu'on pouvait partager beaucoup grâce à Pokémon. Et je pense que il y a eu des éléments à travers le temps qui aussi étaient très sociables. Je pense il y a eu plusieurs étapes. Le jeu d'arcade pour moi c'est aussi une autre étape. Le jeu en ligne aussi, les MMO, ce genre de choses. Mais Pokémon a été aussi une étape comme ça où on se met à parler de Pokémon. Sans y jouer nécessairement, c'est-à-dire que on ouvre les guides stratégiques, tiens toi tu vas monter, il va prendre telle attaque à tel niveau, c'est super, je vais faire ça, t'as pas un drac au feu à me passer, c'est fou et c'est vraiment des souvenirs extrêmement chaleureux et aussi des peines quand j'ai perdu une sauvegarde un jour Pokémon et que j'ai perdu tous mes Pokémon et que j'ai vraiment un ami à moi d'enfance avec qui je jouais énormément à Pokémon et je passais des après-midi entiers chez lui à feuilleter les magazines stratégiques et tout, m'a écrit une carte, je suis désolé pour ta perte, une carte de condoléances pour ma sauvegarde de Pokémon. C'était
chouchou.
Fucking important. Et voilà, donc c'est grosse partie de ma vie Pokémon, grosse partie de ma vie.
Marius,
moi je vais sortir un jeu que j'aime pas, qui m'a traumatisé.
Ah.
En fait, le jeu d'enfance, il y a deux trucs, il y a les jeux qu'on a adorés et qui nous ont accompagnés, tu vois, mentalement toute notre vie. Et puis il y a les jeux qu'on n'a pas choisis, qu'on nous a offerts, mais vu qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens de se permettre de mettre de côté un jeu, parce que ça coûtait cher, et que ma Mega Drive, j'avais pas de potes qui avaient la Mega Drive, du coup on se prêtait pas de jeu, il n'y avait pas d'échange là-dessus. Et je suis resté coincé longtemps avec James Bond 2 Robocode, qui est un jeu qui était pas mauvais, parce que c'est un jeu de plateforme, qui avait un
niveau...
Ouais, okay. Enfin, moi c'était sur Mega Drive.
On dirait un nom de jeu inventé par ChatGPT, je suis désolé. Mais...
qu'un univers que j'aimais pas, qui me mettait mal à l'aise. Et
la parodie,
honnêtement,
la parodie,
j'ai toujours des images, des niveaux dans la tête, de temps en temps, qui pop. Et c'est horrible. C'est dans un monde de jouets avec des décors chocolat, des trucs. Il y a des dents qui se déplacent toutes seules, et puis il y a des fonds de niveau où c'est genre des cookies ou des ballons ou des raquettes de ping-pong avec des yeux qui te regardent. C'est, pour moi, c'est un univers de plateforme, mais cauchemardesque.
Parce que Monty Python-esque, il y a un côté...
Ouais, mais mal... Enfin, moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise, et...
En gros, t'avais Sonic 2 dessus, sur le Mega Drive, et toi, tu jouais à ça, quoi.
J'avais les Sonic, mais tu vois, les Sonic, une fois que tu les as fait pendant heures et des heures et des heures, t'as besoin de lancer autre chose. Et une fois que t'as poncé tes Street of Rage, tes Golden Axe et machin, bah, tu relances James Bond, que t'aimes moins. Et ça m'a vraiment traumatisé. J'ai encore aujourd'hui des images du jeu qui remontent de temps en temps.
Il était déguisé en Robocop dans James Bond 2.
Il avait une espèce de d'armure, mais qui tenait juste les. C'était à moitié un truc de foot américain. Tu vois, t'as juste des épaulettes mais il y avait des petits moments sympas où t'étais dans des véhicules, mais ça suffisait pas à rendre le jeu sympa. Ah, Berk. C'est un traumatisme d'enfance qui reste important, mais voilà. James Bond.
Moi j'ai hésité pour ma part. J'ai hésité pas beaucoup, mais il y avait Arkanoid. Mais Arkanoid, je me disais, est-ce que c'est vraiment celui-là? En fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Je pense que j'en ai déjà parlé dans Silence on joue, mais peut-être pas dans les bandes annonces. Moi, c'est un jeu Commodore 64. Il s'appelle BC's Quest for Tyre.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Alors, c'est un jeu où on joue un homme des cavernes qui va libérer sa dulcinée qui a été capturée par un dinosaure.
Normal.
Bref. Et en fait, il roule sur une roue en pierre. Et donc, voilà, il se balade. Et puis, il faut qu'il saute quand il y a des trous. Il faut qu'il se baisse quand il y a des branches. Il faut qu'il saute quand il y a des pierres qui roulent, quand il est sur une pente, etc. Et il faut qu'il saute par-dessus les... Enfin, bref, c'est un jeu de... Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu de plateforme? Pas vraiment, parce que vraiment un jeu de saut, se baisser. Enfin, il y avait vraiment... Et se mettre à gauche ou à droite de l'écran aussi, parce qu'il avance tout seul. Il est à vitesse constante et il avance tout seul. Pourquoi est-ce que c'est le jeu de mon enfance? Parce que j'y ai joué beaucoup et j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est important là-dessus. C'est que quand mon père a reçu le Commodore 64, il y avait avec le Commodore 64, il y avait la cassette magique de mon oncle dont j'ai déjà parlé, qui était une cassette où il y avait plein de jeux piratés, et il y avait sur la petite pochette de la cassette, il y avait les time codes, là où commençait chaque jeu, etc. Et BC's Quest for Tyre, vous l'avez deviné, c'était le jeu au timecode 000. Donc, quand on avait la flemme de mettre de choisir, parce qu'il y avait, Paperboy qui était aussi sur ce truc-là. Il y avait, je pense qu'Arkanoid était aussi sur cette cassette-là. Mais le premier, c'était BC's Quest for Tyre. Et donc, c'est sans doute le jeu auquel j'ai le plus joué de toute cette époque-là. Ouais, c'était le jeu par défaut. Bon, après, évidemment, vu qu'on était sur un lecteur de cassette, il fallait les 10 bonnes minutes de chargement. Non, quoique c'était moins, vu qu'il y avait beaucoup plus de jeux. Mais facile 4-5 minutes de téléchargement de jeu, d'installation. Et je l'avais fini. C'est donc peut-être même le premier jeu de ce type-là où je suis arrivé au bout.
Mais alors cette cassette, est-ce qu'elle est encore ici? Est-ce qu'elle est encore chez toi?
Non, j'ai cherché, mais elle n'est pas... Je crois que le Commodore est dans une malle, quelque part.
La malle au Commodore, ça c'est...
Mais la cassette, non, la cassette, j'ai plus de traces. Je chercherai quand même, je chercherai. Je j'ai pas recroisé depuis très très longtemps. Mais
faudra mettre la photo sur Discord si tu la retrouves.
Ouais, pas de problème. Avec la liste des jeux et les time codes, pas de problème. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, s'il ne fallait en garder qu'un seul, quel est le jeu de votre enfance ? Vous pouvez répondre évidemment sur le Discord de Séance On Joue ou sur les réseaux sociaux. Sur Blue Sky, par exemple, c'est ouvert maintenant, il paraît.
Oui, c'est ouvert. Oui.
c'est
je
ouvert.
Vends mes codes, d'ailleurs, si quelqu'un veut mes codes. je vous fais un pack.
C'est fait.
Je recycle mes blagues de Blue Sky. C'est une blague que vous trouvez sur Blue Sky, d'ailleurs, donc je recycle mes blagues.
J'ai lu aussi qu'ils valent toujours plus cher que les NFT. Hein, donc, ça...
C'est vrai.
Et nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence en Joue. Ciao.
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 C'est fou, on l'a déjà enregistré.